pas belle cette année 2011, c'était Jackie, Dieu le fit.
Bah voilà ce qui me rassure quand même, c'est l'âge. Je vois la Liane Bettencourt, elle est riche, riche, très riche, 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 mais elle est vieille, elle perd la tête, elle n'a plus d'avenir, elle est pas belle, elle est vieille. Et une petite gamine là, qui s'appelle Barbara, j'ai son prénom, elle a 22 ans, elle est belle comme le jour, mais par contre elle est pas riche, elle gagne que quoi, même pas le SMIC, elle paye son petit loyer, qui est assez cher d'ailleurs, on ne prend plus la moitié de sa paye, elle paye son électricité, tout ça, il reste plus grand chose la pauvre gosse. Mais elle est jeune et belle, elle est jeune et belle, et elle a l'avenir, elle est jeune et belle. Ah, voilà ce que c'est. Alors maintenant ce que j'espère c'est que les jeunes votent, par contre. Que les jeunes votent, que si on laisse voter les vieux, beaucoup de vieux ils votent à droite ou votent Front National. Je généralise pas, parce que je connais beaucoup de personnes âgées, j'en connais quand même qui sont des anciens résistants, des anciens qui se sont combattus pour avoir les acquis sociaux, tout ça, faut pas généraliser, c'est sûr. Mais dans l'ensemble, ceux que je croise, soit ils ont retourné leur veste, ou ils votent à droite, ou ils votent extrême droite, hein. Et ils sont assez beaux fréac. Et salut Agnès, c'est Alain Pantin. Ah oui, bon je veux pas faire le jaloux, mais t'es un petit auditeur, tu l'appelles ton petit chouchou, hein, c'est pas juste, hein, et nous les autres on est quoi alors, hein, y'a ces chouchous d'auditeurs maintenant. Hein.
Salut les AMG, samedi rassemblement pour le comité de défense du peuple syrien. Vous savez très certainement tous ce qui s'y passe, on a besoin de tout le monde pour venir manifester à 15h samedi donc à la place de la mairie à Péberlan, à Bordeaux. On compte sur tout le monde. Si vous pouviez être là, ça ferait du bien. Donc, merci à tous. Au revoir.
Bonjour la France solidaire. Le rendez-vous demain, c'est à Marseille, à 14h, sur le Vieux-Port, pour exprimer sa solidarité avec Gaza, assiégée depuis 4 ans et bombardée. Un bateau français va partir dans le cadre de la flottille internationale vers Gaza pour forcer le blocus. Ceux qui s'indignent plutôt pour Gaza et la situation de Gaza que sur le départ d'une flottille militante, pacifiste et chargée de matériel humanitaire, rendez-vous demain sur le Vieux-Port à 14h. À bientôt.
Bonjour, Cécile, 25 ans, à la recherche d'un emploi d'hôtesse de l'air. Depuis 2 ans déjà, un bac plus 3, des formations, des diplômes, je suis prête à m'envoler. Le seul souci, pas de travail dans les compagnies. Alors oui, je vais bientôt apparaître sur la couverture du Figaro magazine et je vais rejoindre mon hamac de la France des assistés. Je ne demande qu'à travailler, messieurs les employeurs, je ne demande qu'à gagner ma vie, à l'âge où mes parents l'avaient déjà bien entamé. Parents sans lesquels je serais sous les ponts. J'attends juste le chignon et mon contrat. En attendant, j'essaye de ne pas serrer les dents et rêve d'un avenir corrompu par tous les lecteurs du Figaro magazine. Bravo à vous, messieurs les Français. Je souhaite que votre chute soit longue et douloureuse, autant que l'est ma recherche d'emploi. Au nom du Pôle emploi et de ses adhérents, je vous souhaite une excellente journée.
Aujourd'hui, le Parlement grec, avec la complicité du FMI et de l'Union européenne, va voter un énième plan de restriction budgétaire. C'est la meilleure idée qui soit pour sortir de la crise. Les gens vont encore avoir moins d'argent, donc ils vont consommer encore moins. Donc de plus en plus de petites entreprises, de petits commerçants vont faire faillite. Donc il y aura encore plus de pauvres. Donc l'économie va se bloquer de plus en plus. Et d'ici un mois, 2 mois, 3 mois, il faudra que le FMI et l'Union européenne accordent encore de l'argent à la Grèce qui devra faire encore une nouvelle loi sur d'austérité, ce qui fera que les gens auront encore moins d'argent, qu'ils dépenseront encore moins, que les petits commerçants et les petites entreprises, etc., 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 etc.
Bonjour, ben voilà, nous en France, on est quand même beaucoup plus distingués que les Grecs, les Tunisiens, les Espagnols, là, qui hurlent. Nous, à Paris, j'ai vu, il y avait une soirée blanche, 10 000 bobos bourrins qui se passaient les bouteilles de champagne de main en main. Voilà, c'est quand même beaucoup plus distingué que si ça avait été ce cancer de la France, les RNistes. Allez, on n'est pas prêt de faire des manifs. Au revoir, c'est Jacqueline.
Bonjour, c'est la chorale alternative de Rouen, une chorale qui chante la lutte et l'espoir. On vous donne rendez-vous le 18 juin à 16h rue de l'Hôpital et le 21 juin à 19h45 rue Saint-Nicolas.
On vous propose à la fin de chanter l'hécatombe de Brassens en soutien à nos copains de Toulouse qui ont été marqués au poste la semaine dernière. Et on vous attend nombreuses et nombreux.
Et l'hécatombe de Brassens, eh ben, ce sera chanté demain à Paris aussi, à 17h au métro Cité, entre le palais de justice et la préfecture de police. Je pense pas que l'endroit ait été choisi par hasard. Eh bien, venez nombreux entonner Hécatombe de Brassens avec des musiciens, avec de joyeux drilles et d'épouvantables provocateurs, bien évidemment, 17h demain, métro Cité à Paris. Aujourd'hui, un très grand classique de la basse, si j'y suis, un fameux entretien avec Cornelius Castoriadis. C'était en 1996, il y a donc 15 ans. Cornelius Castoriadis, c'était un an avant sa disparition, nous avait accordé un entretien. Vous allez avoir l'impression que ça a été enregistré hier. Hier, en Espagne, et pas seulement en Espagne, partout, on se pose des questions sur la démocratie représentative ou la démocratie directe. On se pose des problèmes, des questions sur l'autonomie, sur l'autogestion. On se pose évidemment des questions sur la domination néolibérale. On se pose des questions sur la culture, etc. Eh bien, à toutes ces questions, Cornelius Castoriadis nous répondait très très simplement dans cet entretien. Très très simplement, ce qui n'est quand même pas facile pour cet intellectuel, on peut vraiment parler d'un intellectuel, énorme et hors norme, comme l'avait dit son ami Edgar Morin à son sujet. Cornelius Castoriadis était d'origine grecque. Il a été à la fois un philosophe, un économiste, un psychanalyste, et il a abordé quantité de champs disciplinaires au cours de sa carrière, l'épistémologie, l'anthropologie, la politique, l'économie, l'histoire, la psychanalyse et la philosophie. Oh là là, comment ça va tenir tout ça dans une heure de là-bas si j'y suis? Eh bien, vous allez voir, c'est limpide, c'est simple, c'est vraiment un entretien de base, un texte de base, disons, de notre émission. On aime bien chaque année la réécouter et vous la faire réécouter. Mais on va y aller doucement, avec pas mal de messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, ceux que vous avez laissés ces jours derniers. Et puis un petit hommage, un petit clin d'œil en passant à Rissé Barillet. Voilà quelques-uns de ces messages.
Alors en conclusion, dans l'affaire Tapie, Madame Lagarde ne fait pas appel d'un arbitrage privé et Monsieur Tapie empoche plusieurs dizaines de millions d'euros de préjudice moral. Et dans l'affaire des mineurs de 47, Madame Lagarde fait appel d'un jugement public. Vous avez dit moral ? Quelle morale ?
Oui, Daniel, merci pour ton émission extraordinaire. Voilà, j'ai 47 ans, je ne connaissais pas du tout l'histoire de ces mineurs. Je suis atterré par l'émission de ce jeudi que l'État ait osé faire appel. Je suis assis sur ma chaise, le cul par terre, comme on dit. J'ai honte. J'ai honte, ouais, une vraie honte. Continue, Daniel. Continue ces émissions extraordinaires. Et j'espère que l'État français, les futurs candidats à l'élection présidentielle auront un semblant de dignité pour ces gens. Franchement, c'est dégueulasse. J'ai honte. J'ai honte. Vraiment, j'ai honte. Merci, Daniel.
Bonjour. Votre émission était plus que géniale. Elle était émouvante. Elle était belle. C'est toujours bien de toute façon et j'espère vraiment que ça va durer très longtemps. Et votre Achille Blondeau était d'une truculence, était d'une santé, était merveilleux avec des intonations à la Pierre Fresnay. Assez incroyable. J'ai vraiment aimé. C'était d'une superbe qualité. Bravo, continuez. Et surtout, oui, continuez. Au revoir.
Ouais, bonjour, c'est Jean-Marc Duboret. Voilà, bah, merci encore à Daniel et à toute son équipe pour cette émission sur la grande grève de 48. Mais ça, on l'apprend pas à l'école. Hein. voilà, mais non, c'est super intéressant. Et ça ne m'étonne pas non plus que le gouvernement actuel, comme les gouvernements socialistes de 48 et que le gouvernement actuel, aille en cours de cassation pour des faits qui ont 63 ans. Hein, il faut, c'est leur but. Hein. Le bas peuple, ils n'en ont rien à faire. C'est leur but de l'abattre. Voilà. À la prochaine. Merci encore. Daniel continue. C'est génial.
L'humanité du 21 mars 2011 précise qu'en 1981, une loi d'amnistie a été promulguée et aurait pu réhabiliter les mineurs. Mais curieusement, et contrairement à tous les travailleurs des entreprises nationalisées, les 300 mineurs survivants de l'époque ont été exclus de fait. Régis de Nîmes.
C'est une honte. Je viens d'entendre que Mme Lagarde ne veut pas verser les indemnités aux mineurs, alors qu'elle a fait le nécessaire pour que Bernard Tapie touche plusieurs millions d'euros. Je plains sincèrement les pays en difficulté si elle est nommée au FMI, car c'est en effet quelqu'un qui aide les riches et méprise les petits. Catherine d'Amboise, au revoir.
Salut Mermet, salut les auditeurs. Rissé Barry est mort. Celui qui nous expliquait la meilleure façon de manger salade de pissenlit avec lardons et œufs mollets, eh bien maintenant il les mangera par la racine. Ce matin, je suis allé sur son site, et dans son agenda, il y avait une rubrique bulletin de santé qui disait cette phrase « Quelle drôle d'espèce que celle des toubibs. Ils sont arrivés au bout de mes problèmes, la vie reprend son cours. » Il y aura bientôt du nouveau sur la planète Barrier. Quelle drôle d'espèce, vous dis-je. À très bientôt. Salut l'artiste, c'était Eric d'Anduze.
Je suis mort. Je suis bien mort. S'il vous plaît, ne pleurez pas sur mon sort. Corbillard, je la sens près de moi, son rimel fout le camp. Qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Toi qui ne venais jamais à mes rendez-vous de mon vivant. Tu ne te promenais jamais en auto seul avec moi. Aujourd'hui c'est fête, nous voilà réunis dans le même convoi. Tu m'as dit non toute ma vie, le jour de ma mort tu me dis oui. L'amour auquel je ne croyais pas est né le jour de mon trépas. Qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Quelles sont belles tes fleurs, tu en as eu au moins pour 15 000 francs. Toi qui dédaignais tous les bouquets de roses que je t'offrais. Aujourd'hui c'est toi qui m'apportes une couronne signée regret. Moi j'ai pleuré toute ma vie, le jour de ma mort tu pleures aussi. Dommage que tu me dises je t'aime dans le langage des chrysanthèmes. Qu'est-ce que je suis content, tu es venu à mon enterrement. Moi qui voulais me foutre à l'eau chaque fois que tu me disais non. Je ne pouvais pas supporter l'idée de vivre sans toi. Mais je me disais, fais confiance au destin, ton heure viendra. Fallait que je défonce un platane pour que tu veuilles bien devenir ma femme. Tu vas voir comme ce sera coquin, tous les jours ce sera la Toussaint. Je la sens près de moi. Si j'avais su, je serais mort avant. Ah ouais, bien avant.
C'est ça l'élégance du désespoir, hein, l'humour de Rissé Barillé. Il en a beaucoup d'autres comme ça, dont la fameuse compétition des spermatozoïdes. Des spermatozoïdes qui sont prêts à se lancer dans la compétition. On va retrouver tout de suite Cornelius Castoriadis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Je voulais signaler qu'avec l'entrée en vigueur de la réforme de l'allocation adulte handicapé au 1er janvier 2011, que pour les handicapés qui étaient en situation de travail, ça a organisé une perte de revenus de 17,5%. 17,5% par rapport aux revenus globaux de décembre 2010. Donc en trois mois, j'ai perdu 300 euros de rémunération par mois. Je ne sais pas si beaucoup de catégories socio-professionnelles autres que les handicapés accepteraient de continuer à travailler sans se mettre en grève et sans réagir violemment. Ah voilà, on est bien assez occupé avec notre handicap sans vouloir faire un grand raout, mais je voulais le signaler et puis je voulais dire à tous les handicapés qui travaillent de se méfier et de faire attention à leur revenu, quoi. Voilà. Bonne journée à tous. Salut.
Salut les AMG. Comme tous les troisièmes vendredis du mois, le repère de Marsac-sur-Tarn se déroulera ce soir, vendredi 17 juin, à la typique 20h30. Nous parlerons d'autogestion. Il y aura aussi un autre repère le 15 juillet, en compagnie de Fred Dubonnet, qui posera la chansonnette, comme toujours, à la typique 20h30. Adieu.
Enfin seul. La partouze est finie, nos amis sont partis, nous sommes enfin seuls. Ça te dit un Scrabble ?
Bon, ben c'est Francine. On ne peut pas dire que Georges Philippe soit Rimbaud, mais on ne peut pas lui ôter un certain sens de la rime. Bonne journée.
Oui, bonjour, c'est Patrice. J'appelle du Lot. Donc je vous remercie pour l'émission et deux questions au sujet du reportage sur la grève des mineurs. La première question, c'est que je voulais savoir s'il y a eu un pardon de l'actuelle direction du PS aux mineurs. Si Madame Aubry était venue les accompagner au procès, je sais que Madame Royal l'a fait avec José Bové, du style, aujourd'hui, un ministre de l'Intérieur du PS ne serait pas en mesure d'envoyer les CRS contre des grévistes. C'est une question que je me pose, peut-être la réponse a été donnée déjà. Ensuite, Madame Lagarde se pourvoit en cassation, je trouve que c'est une belle position de classe. Sauf que la droite avait une occasion électoraliste de retrouver un petit peu de crédit auprès des ouvriers et donc pouvait simplement lâcher l'affaire, voire même en expliquant voyez ce qu'a fait un gouvernement social-démocrate à cette époque-là. Nous, on ne serait pas comme ça, on ne ferait jamais comme ça. Donc j'ai l'impression que la droite reste aux côtés des patrons les plus durs. Ça me fait repenser à Germinal de Zola. Et j'ai l'impression aussi que la social-démocratie actuelle à son tour, se porte garante des mêmes intérêts de la bourgeoisie, quoi, en fait. Voilà. Merci, à bientôt et bonne continuation.
Nantais, Nantaise, ce soir, vendredi 17 juin, c'est chant libre encore. Chanter fou ou mourir. Parce qu'à parler, dialoguer, échanger, on devient radical. C'est peut-être bien pour ça qu'il devient si difficile de se réunir, de se confronter, d'être libre, mais ensemble. Alors comme ça, trois fois par an, on se met à chanter, sur scène, à table, à l'envers, à l'endroit, on dit debout. Ce n'est plus un débat. On ne se doit pas d'organiser nos idées. Moins de cerveau, plus de tripes. On s'écoute. Librement, devant les autres, devant soi-même. Avec humour, avec sérieux. On dit l'indicible et le futile, pour rire, frissonner, s'affirmer. Parce que la poésie nous unit en résistance, nous déclarons le champ libre ouvert à tous, ce soir au Méliès, à 19h19.
C'est là-bas, si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec Feu Cornelius Castoriadis, la montée de l'insignifiance.
Flight number 2, arriving from New York.
Ce qui caractérise le monde contemporain, c'est bien sûr les crises, les contradictions, les oppositions, les fractures, etc. Mais moi, ce qui me frappe surtout, c'est précisément l'insignifiance, c'est-à-dire bon, la querelle entre la droite et la gauche, par exemple, actuellement, elle a perdu son sens. Non pas parce qu'il n'y a pas de quoi y avoir une querelle politique, même une très grande querelle politique, mais parce que les uns et les autres disent la même chose. C'est-à-dire, bon, depuis 83, les socialistes ont fait une politique, puis Balladur est venu, il a fait la même politique, puis les socialistes sont revenus, ils ont fait avec Bérégovoy la même politique, Balladur est revenu, il a fait la même politique, Chirac a gagné les élections en disant « je vais faire autre chose » et il fait la même politique. Bon, manque de sens de cette distinction.
Pourquoi cette insignifiance ? Par quel mécanisme cette classe politique serait-elle réduite à une impuissance ? Puisque c'est le grand mot le plus employé en ce moment, c'est impuissance.
Ah non, c'est pas un grand mot, ils sont impuissants, ça c'est certain. Et la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est suivre le courant, c'est-à-dire appliquer la politique ultra-libérale qui est la mode à cette époque, et même les socialistes, bon, ils n'ont pas fait autre chose, et je crois pas qu'ils feraient autre chose si j'étais au pouvoir. Ce n'est pas des politiques, à mon avis, c'est des politiciens, au sens de micro-politiciens, n'est-ce pas ? Bon, c'est des gens qui chassent les suffrages par n'importe quel moyen, c'est tout.
Le marketing politique.
Le marketing. Ils n'ont aucun programme, quoi. Ils n'ont pas vraiment des programmes. Leur but, c'est de rester au pouvoir ou de revenir au pouvoir. Et pour ça, ils sont capables de tout. Clinton, par exemple, il a fait sa campagne électorale en suivant les sondages comme ça. Si je dis si, qu'est-ce qui va se passer ? Et en prenant chaque fois l'option gagnante pour l'opinion publique. C'est-à-dire, comme disait l'autre, je suis leur chef, donc je les suis, quoi. Bon. Mais ce qui est de fascinant dans l'époque, c'est comment ça conspire. Comme dans toutes les époques, d'ailleurs. Il n'y a aucun lien intrinsèque entre cette espèce de, comment dire, de nullité de la politique, de devenir nul de la politique, et cette insignifiance dans les autres domaines, dans les arts, dans la philosophie, etc., etc., n'est-ce pas ? Dans la littérature. Et c'est ça l'esprit du temps. C'est sans aucune conspiration d'une puissance quelconque qu'on pourrait désigner, tout conspire au sens, respire dans le même sens pour les mêmes résultats, c'est-à-dire l'insignifiance. Bon, la politique, c'est un métier bizarre, même cette politique-là. Mais ça a toujours été un métier bizarre. Pourquoi ? Parce qu'elle présuppose deux capacités qui n'ont aucun rapport intrinsèque. La première capacité, c'est d'accéder au pouvoir. Si on n'arrive pas à accéder au pouvoir, on peut avoir les meilleures idées du monde, ça ne sert à rien. Ça implique un art de l'accession au pouvoir. La deuxième, c'est une fois qu'on est au pouvoir, d'en faire quelque chose, c'est-à-dire de gouverner. Bon, Napoléon savait gouverner. Clémenceau savait gouverner. Churchill savait gouverner. Bon, c'est pas des personnes que j'aime particulièrement, ni qui sont dans mes cordes politiquement. Je décris maintenant un type historique. Bon. Or, rien ne garantit que quelqu'un qui sait gouverner sait accéder au pouvoir. Vous voyez ? Alors, dans la monarchie absolue, accéder au pouvoir, c'était quoi ? C'était flatter le roi. C'était dans les bonnes grâces de Madame Pompidou. Pompadour. C'est un joli lapsus.
On le gardera.
On le gardera. Bon, et Madame Pompidou, la pauvre d'ailleurs, elle ne mérite pas ça. Bon. Et puis après, ce qui se passait quand on était au pouvoir, c'était autre chose. Dans la forme de pseudo-démocratie sous laquelle nous vivons, accéder au pouvoir signifie être télégénique, flairer l'opinion publique.
Vous dites pseudo-démocratie. On attaque la classe politique, d'accord.
C'est une tradition. Là, vous la définissez donc comme insignifiante, comme suivant le cours de l'opinion. Mais il y a l'opinion, il y a les citoyens. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces citoyens?
Ben, les citoyens ne peuvent pas foutre grand-chose, parce que je dis pseudo-démocratie d'abord parce que j'ai toujours pensé que la démocratie dite représentative n'est pas une vraie démocratie. C'est-à-dire que ces représentants représentent très peu de les gens qui les élisent, et surtout ils représentent eux-mêmes ou des intérêts particuliers ou des lobbies, etc. Et ensuite, même si c'était pas comme ça, dire que quelqu'un va me représenter pendant 5 ans, et que ça c'est irrévocable, ça veut dire que je me dévêtis de ma souveraineté en tant que peuple. Rousseau le disait déjà, les Anglais croient qu'ils sont libres parce qu'ils élisent des représentants tous les 5 ans, et disait-il, ils sont libres un jour pendant 5 ans, le jour de l'élection. Même ça c'est pas vrai, parce que l'élection est pipée. Non pas qu'on triche dans les urnes, elle est pipée parce que les options sont définies d'avance, personne n'a demandé au peuple sur quoi veut-il voter. On le dit, voter sur ou contre Maastricht, par exemple. Qui a fait Maastricht? Bon, c'est pas nous qui avons fait Maastricht. Donc, la vraie démocratie, c'est, bon, il y a une merveilleuse phrase d'Aristote, qui est citoyen? Et citoyen, quelqu'un qui est capable de gouverner et d'être gouverné. Est-ce qu'il y a 40 millions de citoyens en France en ce moment? Question. Mais pourquoi ils ne seraient pas capables de gouverner? Mais parce que toute la vie politique vise précisément à leur désapprendre à gouverner. Et vise à les convaincre qu'il y a des experts à qui il faut confier les affaires. Voilà. Et donc, il y a une contre-éducation politique. Au lieu que les gens s'habituent à exercer diverses sortes d'initiatives, de responsabilités, de pouvoir, etc., ils s'habituent. Bon. À suivre ou à voter pour des options que d'autres leur présentent, etc. Alors, comme évidemment les gens sont loin d'être idiots, le résultat c'est quoi? C'est qu'ils y croient de moins en moins, et qu'il y a ce cynisme que nous constatons, l'apathie politique, le cynisme que nous constatons.
Dans cette responsabilité citoyenne, dans cet exercice démocratique, est-ce que vous pensez qu'autrefois c'était mieux, qu'ailleurs aujourd'hui c'est mieux par rapport à la France?
Non, ailleurs aujourd'hui, ce n'est certainement pas mieux, ça peut même être pire, encore une fois, les élections américaines le montrent, n'est-ce pas? Bon, mais autrefois, c'était pas mieux au sens... c'était mieux de deux points de vue. Dans les sociétés modernes, disons dans les sociétés à partir de la Révolution américaine et française, jusqu'à peu près la Deuxième Guerre mondiale, et un tout petit peu après, il y avait encore un conflit social et politique vivant. Les gens s'opposaient, les gens manifestaient pas pour qu'on ne ferme pas telle ligne de la SNCF, ce qui, je dis pas que c'est méprisable, c'est quand même un objectif, bon. Mais ils manifestaient pour des causes politiques, où les ouvriers faisaient grève, ils faisaient pas grève toujours pour des petits intérêts corporatifs, il y avait des grandes questions qui concernaient tous les salariés qui étaient au travail. Bon, et ça a marqué ces deux siècles. Or depuis, ce qu'on observe précisément, c'est un immense recul de l'activité des gens, et là on a un cercle vicieux. Plus les gens se retirent de l'activité, plus quelques bureaucrates, politiciens, soi-disant responsables, etc., prennent sur eux. Et ils ont une bonne justification et disent, bon, je prends sur moi parce que les gens ne font rien. Vous voyez ? Et plus ces gens-là prennent sur eux, plus les autres se disent, bon, c'est pas la peine de se mêler, il y en a ceux qui s'en occupent, et puis de toute façon, il n'y peut rien. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison qui est tout à fait liée à celle-là, c'est la dissolution des grandes idéologies politiques. L'idéologie, soit révolutionnaire, soit vraiment réformiste, mais pas réformiste pour rire, qui voulait vraiment changer des choses dans la société, pour mille et une raisons qu'on ne peut pas discuter maintenant, a été déconsidérée, a cessé de correspondre au temps, etc., etc., à correspondre aux aspirations des gens, à la situation de la société, à correspondre à l'expérience historique. Tout le monde nous dit, bon, c'est quand même étonnant, je vais me fâcher quand j'y pense, n'est-ce pas? Il y a eu cette espèce d'énorme événement qui est l'effondrement de l'URSS et du communisme. Est-ce que vous pouvez me dîner une seule personne parmi les politiciens, pour ne pas dire les politicards de gauche qui existent actuellement, qui a vraiment réfléchi sur ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et à, comme on dit bêtement, tirer des leçons. Or, alors que, évidemment, quelque chose comme ça appelle une évolution de ce type, à la fois d'abord dans sa première phase, l'accession à la monstruosité, si je peux dire, du totalitarisme, le goulag, etc., etc. Bon. Et puis, dans l'effondrement, méritait une réflexion très approfondie et quelque chose comme conclusion sur ce qu'un mouvement qui veut changer la société peut faire, doit faire, ne doit pas faire, ne peut pas faire. Zéro, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Bon, alors, donc, comment voulez-vous? C'est-à-dire, ce qu'on appelle le peuple, les masses, etc., etc., tire les conclusions qu'il peut tirer, mais il n'est pas vraiment éclairé. Vous me parliez tout à l'heure du rôle des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils font, ces intellectuels? Bon, alors, la droite, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant depuis Reagan, Thatcher et puis les socialistes français? Ils ont ressorti le libéralisme pur et dur du début du 19e siècle, qu'on avait combattu pendant 150 ans, qui aurait conduit la société à la catastrophe, parce que finalement le capitalisme, c'est vrai, le vieux Marx n'avait pas tort, est-ce qu'il avait tort sur un autre plan. Si le capitalisme avait été laissé à lui-même, il se serait effondré 1000 fois, enfin 100 fois. Il y aurait eu une crise de surproduction tous les ans. Pourquoi il ne s'est pas effondré? Parce que les travailleurs ont lutté. Ils ont imposé des augmentations de salaire. Donc ils ont créé des énormes marchés de consommation interne. Ils ont imposé des réductions du temps de travail. Ça a absorbé tout le chômage technologique. Donc, il y a eu ce retour du libéralisme, et moi je suis sûr que si ça continue comme ça, enfin je suis sûr, on ne peut jamais être sûr en histoire, mais je ne sais pas ce qui va se passer, moi je ne vois pas comment l'Europe en tout cas pourra sortir de cette crise dans laquelle elle est. Or les libéraux viennent et disent, il faut faire confiance au marché, etc., etc. Mais enfin, ce que disent maintenant les néolibéraux, c'est les économistes académiques eux-mêmes qui l'ont réfuté pendant les années 30. Ils ont montré qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre dans la société capitaliste. Ce n'étaient pas des révolutionnaires, ce n'étaient pas des marxistes. Ils ont montré aussi que tout ce que racontent les libéraux sur les vertus du marché, comme quoi il garantit une allocation, la meilleure allocation possible des ressources, une distribution du revenu la plus équitable possible, c'est des foutaises. Tout ça, ça a été démontré. Ça n'a pas été réfuté. Mais il y a eu une grande offensive économico-politique des couches gouvernantes et dominantes qu'on peut symboliser par le nom de Reagan et de Thatcher, et même de Mitterrand d'ailleurs, qui a dit, bon, vous avez assez rigolé, maintenant on va vous licencier, on va dégraisser l'industrie, hein, à éliminer la mauvaise graisse, comme dit M. Juppé. Bon, et puis vous verrez que le marché à la longue vous garantit le bien-être.
Pourquoi pas l'opposition à ce libéralisme?
Je ne sais pas. C'est extraordinaire. Bon, on a parlé, il y a une sorte de terrorisme, pratiquement, de la pensée unique, comme on dit, la pensée unique, c'est-à-dire cette non-pensée. Elle est unique, c'est la première pensée qui est une non-pensée intégrale, n'est-ce pas? Pensée unique, libérale. Bon, personne n'ose s'opposer. Qu'est-ce que c'était l'idéologie libérale à sa grande époque?
1850?
Oui, c'est ça, 1850. C'était quand même une grande idéologie. Parce qu'on croyait au progrès. Ces libéraux-là, ils pensaient que, par exemple, Guizot ou John Stuart Mill, ils pensaient qu'avec le progrès, il y aurait à la fois l'élévation du bien-être économique.
Enrichissez-vous.
Mais même quand on ne s'enrichissait pas, comme dans les classes dominées, disons, exploitées, on allait avoir précisément moins de travail, des travaux moins pénibles, on serait moins abrutis par l'industrie. C'était le grand thème de l'époque. Constant dit, les ouvriers ne peuvent pas voter parce qu'ils sont abrutis par l'industrie. Il le dit carrément, Benjamin Constant. Les gens étaient honnêtes à l'époque. Donc il faut un suffrage censitaire. Bon, alors après on a dit bon non, parce que le temps de travail diminue, parce qu'il y a l'alphabétisation, il y a l'éducation, il y a des espèces de lumières qui ne sont plus les lumières subversives du 18e, mais enfin qui se diffusent comme ça dans la société, la science se développe, l'humanité s'humanise, les sociétés se civilisent, et comme ça, petit à petit, asymptotiquement, on arrivera à une société où il n'y aura pratiquement plus d'exploitation, où cette démocratie représentative tendra à devenir une vraie démocratie, etc., etc.
Pas mal.
C'était pas mal. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça n'a pas marché comme ça, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que le reste s'est réalisé. Mais tout ça, ça n'a pas humanisé l'humanité, ça n'a pas civilisé la société, ça n'a pas adouci les capitalistes, on le voit maintenant, n'est-ce pas? Bon, c'est-à-dire que ce n'est pas les hommes, c'est le système. Et donc, ça ne marche pas comme ça. Et ça fait que, de l'intérieur, les gens ne croient plus à cette idée. L'idée est une... Comment dire? L'humeur, la disposition générale est une disposition de résignation. Même chez les représentants du libéralisme. Puis j'ose pas dire plus. Quel est le grand argument maintenant? C'est peut-être mauvais, mais l'autre terme de l'alternative était de loin pire. C'est ça le grand argument.
Oui, ça se résume à ça.
C'est... Hein?
Oui, c'est ça. Ouais.
Ça se résume à ça. Et c'est vrai que ça joue. Ça joue. Ça... C'est vrai que ça a glacé pas mal les gens. Ils disent, bon, mais si on bouge trop, on va pas arriver à nouveau au goulag, par exemple. Bon. Donc, ça, c'est derrière cette espèce d'épuisement idéologique de l'époque. Et je crois qu'on en sortira que si vraiment il y a... Enfin, c'est une tautologie de dire ça comme ça, mais enfin, il faut qu'il y ait, il faut attendre, il faut espérer, il faut travailler pour qu'il y ait une résurgence à la fois d'une critique puissante du système et d'une activité des gens, une participation des gens.
Entretien avec Cornelius Castoriadis. 25 novembre 1996.
Votre confrère et compère Edgar Morin, en matière de politique, dit une chose que vous connaissez, qui est l'histoire du généraliste et du spécialiste. C'est-à-dire qu'il dit, la contradiction de la politique, c'est qu'il faudrait à la fois... la politique, c'est un domaine où il faut être généraliste, hein. Et donc c'est une impasse, parce qu'un généraliste, c'est un petit peu tout sur mais pas à fond, évidemment, par définition. Et puis c'est une affaire aussi de spécialiste, mais c'est une impasse aussi, parce que le spécialiste, il connaît sa spécialité, mais pas le reste. Spécialiste et généraliste, comment vous faites pour faire de tout, avec cette contradiction, un bon citoyen?
Ce dilemme posé comme ça est posé depuis Platon.
Oui.
C'est pour ça que Platon disait c'est les philosophes qui doivent régner, qui sont au-dessus des spécialistes, parce qu'eux, ils ont, dans la théorie de Platon, ils ont une vue du tout. Mais l'autre terme de l'alternative, c'était précisément la démocratie athénienne. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Athéniens? C'est très intéressant. C'est les Grecs qui ont inventé les élections, hein. Ça, c'est en fait historiquement attesté. Bon, ils ont peut-être eu tort, mais ils ont pas été les élections. Bon. Alors, qui est-ce qu'on élisait à Athènes? On n'élisait pas les magistrats en général. Les magistrats étaient désignés par tirage au sort ou par rotation. Tout le monde, bon, Aristote, citoyen, celui qui est capable de gouverner, d'être gouverné. Tout le monde est capable de gouverner, donc on tire au sort. Pourquoi? Parce que la politique, c'est pas une affaire de spécialiste. Et pourquoi c'est pas une affaire de spécialiste? Parce qu'il n'y a pas de science de la politique. Il y a une opinion, la doxa des Grecs. Il n'y a pas d'épistémé. Je vous fais remarquer d'ailleurs que l'idée qu'il n'y a pas de spécialiste de la politique, et que les opinions donc se valent, c'est la seule justification raisonnable du principe majoritaire. Donc, le peuple décide. Et les magistrats sont élus au sort, ou désignés par rotation. Il y a des activités spécialisées, parce que les Athéniens n'étaient pas fous, ils ont quand même fait des choses assez considérables, ils ont fait le Parthénon, ils ont gagné des Padaesa. Dans ces activités spécialisées, la construction des chantiers navals, la construction des temples, la conduite de la guerre, il y a des spécialistes. Donc ceux-là, on les élit. C'est ça l'élection. Parce que l'élection, ça veut dire l'élection des meilleurs.
Et sur quoi on se base pour élire le meilleur?
Alors, sur quoi on se base?
Qui me dira que celui-là est meilleur guerrier que celui-là?
Voilà. Alors
qu'est-ce
là, mais bien là, bien sûr. Alors là, il y a précisément l'éducation du peuple parce qu'il choisit. On fait une première élection, on se trompe, on constate par exemple que Périclès est un déplorable stratège, mais on ne le réélit pas. Ou même on le réévoque. Vous voyez? Bon, mais cette doxa, cette opinion dont on peut postuler qu'elle est également partagée, c'est bien sûr un postulat tout à fait théorique. Pour qu'il devienne un tant soit peu, pour qu'il ait un peu de chair, il faut que vraiment cette doxa soit cultivée. Et comment peut être cultivée une doxa concernant le gouvernement? en gouvernant. Donc la démocratie est aussi, c'est ça l'important, une affaire éducationnelle des citoyens. Et c'est ça qui n'existe pas du tout à l'époque actuelle. Bon, 60% des députés, à vous qui ne comprennent rien à l'économie, les députés en France, et ceux-là, ils vont décider, ils votent, voilà, ils vont décider, ils décident tout le temps, ils votent, ils augmentent les impôts, ils diminuent, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, c'est que le cas avec ces députés, comme avec les ministres, etc., ça, c'est qu'ils sont asservis à leurs techniciens. C'est-à-dire, ils ont leurs experts. Et alors, comme en plus, ils ont, c'est très drôle, parce qu'ils ont chacun quand même des préjugés ou des préférences. Alors, si vous suivez de près le fonctionnement d'un gouvernement, d'une grande bureaucratie, moi je l'ai suivi dans d'autres circonstances, vous voyez que quand vous dirigez, bien sûr, vous fiez aux experts. Et vous choisissez les experts qui ont les opinions que vous préférez. Donc, vous trouverez toujours un économiste pour vous dire, oui, il faut faire ça. Mmh. Ou un expert militaire qui vous dit, oui, il faut l'armement nucléaire, ou il ne faut pas d'armement nucléaire, ou n'importe quoi. Vous voyez, mmh. Bon, c'est un jeu complètement stupide. Et c'est comme ça qu'on est gouverné actuellement, plus ou moins. Donc, dilemme de Morin et de Platon. Les spécialistes des généralistes. Les spécialistes au service des gens. C'est ça la question. Pas de quelques politiciens, et les gens apprenant à gouverner en gouvernant.
Éducationnel, vous avez dit, et vous dites, c'est pas le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Quel mode d'éducation vous voyez ? Quel mode de partage de la connaissance vous préconisez ?
Non, moi je pense...
Vous n'êtes pas quelqu'un qui préconise.
Non, je préconise pas, mais ce que je pense, c'est que, de toute façon, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait changer avant qu'on puisse parler d'une véritable activité éducatrice dans le plan politique, parce qu'encore une fois, la principale éducation dans la politique, c'est la participation active aux affaires, et la participation active aux affaires implique une transformation des institutions qui permettent et qui incitent à cette participation active aux affaires, au lieu que les institutions actuelles repoussent, éloignent, dissuadent les gens de participer aux affaires. Bon, donc ça c'est le point capital. Mais cela ne suffit pas. Il faut que les gens soient éduqués pour le gouvernement de la société. Il faut qu'ils soient éduqués dans la chose publique. Or, si vous prenez l'éducation actuelle, ça n'a strictement rien à voir avec ça, l'éducation. On leur apprend des choses spécialisées. Bien sûr, on leur apprend à lire et à écrire. Bon, très bien, il faut que tout le monde sache lire et écrire. D'ailleurs, chez les Athéniens, il n'y avait pas d'alphabet, hein. Il n'y avait aucun alphabet, tous à peu près tous savaient lire. C'est pour ça qu'on inscrivait les lois sur le marbre. Tout le monde pouvait les lire. Donc, le fameux adage « personne n'est censé ignorer la loi » avait un sens. Alors qu'aujourd'hui, on peut vous condamner parce que vous avez fait une infraction, vous ne connaissiez pas la loi. On vous dit « vous êtes censé ne pas l'ignorer ». Bon. Alors, c'est l'éducation, si on prend l'éducation au sens étroit, l'éducation des enfants, des jeunes, etc., devrait être quand même beaucoup plus axée qu'elle ne l'est maintenant vers les choses communes. Il faudrait comprendre les mécanismes véritables de l'économie, les mécanismes véritables de la société, de la politique, etc., etc. C'est-à-dire, il faudrait une éducation qui soit à la fois où il y ait beaucoup plus d'histoire. On n'est pas capable d'enseigner l'histoire. Les enfants s'amèrent en apprenant l'histoire, alors que c'est passionnant. Et une véritable anatomie de la société contemporaine, de comment elle est, comment elle marche, etc., etc.
Vous avez écrit et beaucoup parlé de mai 68. Hein.
Oui.
Je reviens à Morin. Oui. Vous aviez appelé ça ensemble la brèche. C'est le mot que vous aviez trouvé, c'est ça ?
Oui, oui.
Une brèche. Si on pense à 68 parfois, il y a eu des tas de gens qui ont adopté des comportements révolutionnaires, romantiques, absolus, doctrinaires à l'époque, qui étaient basés sur une ignorance complète.
Oui.
Bon. Quand aujourd'hui, on me dit « Ah, t'as du bol, t'as vécu 68 », je dis « Les gars, attendez, le niveau culturel, le niveau de connaissance était beaucoup plus bas qu'aujourd'hui. Est-ce que j'ai raison ?»
Oui, vous avez raison à d'un certain point de vue, qui est très important. Vous avez raison, parce que... Mais c'est pas tellement une question de niveau de connaissance, je crois. C'est l'énorme domination de l'idéologie, dans le sens strict, j'allais dire, dans le sens mauvais du terme. Les maoïstes, c'est parce qu'ils savaient pas. On les avait endoctrinés, ou ils s'endoctrinaient eux-mêmes. Pourquoi ils acceptaient les doctrinations ? Pourquoi ils s'endoctrinaient eux-mêmes ? Parce qu'ils avaient besoin d'être endoctrinés. Ils avaient besoin de croire. Et ça, ça a été la grande plaie du mouvement révolutionnaire depuis le départ.
Mais l'homme est un animal religieux.
L'homme est un animal religieux. Aristote.
C'est pas un compliment, mais.
Non, 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 c'est pas du tout un compliment. Aristote, que je n'arrête pas de citer et que je vénère dans le roman, il a dit une seule fois une chose qui est vraiment une grosse. Bon, faut pas dire bourde quand il s'agit d'Aristote, mais enfin, ça va pas. On dit l'homme est un animal qui désire le savoir. L'homme n'est pas un animal qui désire le savoir. L'homme est un animal qui désire la croyance. Désire la certitude d'une croyance, d'où l'emprise des religions et d'où l'emprise des idéologies politiques. Alors, le mouvement ouvrier, au départ, par exemple, il y avait une attitude très critique. Quand vous prenez les deux premiers vers de l'Internationale, qui est quand même le chant de la Commune, hein, c'est le deuxième couplet. Il n'est pas de sauveur suprême, ni Dieu, d'accord, excite la religion, ni César, excite Napoléon III, ni tribun, excite Lénine. D'accord ?
Ah, j'avais jamais pensé à ça.
Eh oui, mais les gens y pensaient. Or, les gens avaient ce besoin de croyance. Voilà. Alors, en quoi sommes-nous plus sages que mai 68 ? Je crois que peut-être le résultat, à la fois des suites de mai et de l'évolution dans les pays de l'Est et de l'évolution générale de la société, c'est que les gens sont devenus quand même beaucoup plus critiques.
Ah,
ça c'est très important. Alors il y a une frange qui cherche toujours la foi, et là vous avez la scientologie, vous avez les sectes, vous avez tout ce que vous voulez, ou le fondamentalisme, ça c'est dans d'autres cas, dans d'autres pays, pas chez nous, pas tellement quand même. Bon, mais les gens sont devenus beaucoup plus critiques, beaucoup plus sceptiques, ça les inhibe aussi pour agir, bien sûr, parce que c'est aussi une phrase de Périclès dans le discours aux Athéniens. Il dit, nous sommes les seuls chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action.
Les seuls ?
Chez qui la réflexion n'inhibe pas l'action. C'est admirable.
Ah, oui.
Il dit, les autres, ou bien ne réfléchissent pas, ils sont téméraires, font des absurdités, ou bien en réfléchissant, ils arrivent à ne rien faire, parce qu'ils se disent, il y a ce discours, il y a un discours contraire, etc. Bon. Or, précisément, actuellement, on traverse aussi une phrase d'inhibition, ça c'est sûr. Les gens, bon, un chat échaudé craint l'eau froide. Bon, ils ont goûté tout ça, ils se disent, bon, les grands discours et tout le reste, effectivement, il n'y a plus de grands discours, et il ne faut pas des grands discours. Mais il faut des discours vrais. Et bon, c'est ça qui n'existe pas, de moins, n'existe pas dans une projection sociale, si je peux dire.
Un pays extraordinaire ici, j'adore.
Vous êtes psychanalyste aussi,
hein, oui.
Ce qui fait peut-être la richesse de votre pensée, c'est aussi ce regard psychanalytique sur le monde. C'est pas si fréquent d'avoir plusieurs regards comme ça sur une chaîne.
Okay.
Raoul Weinegem a publié un livre dont le titre est « Nous qui désirons sans fin ». Et de ce
délirons.
Nous qui désirons.
Ah, qui désirons sans fin, oui. Nous qui désirons sans fin.
Qu'est-ce que vous pensez de cette idée que de toute façon il y a cet irréductible désir qui fait que l'histoire continue?
Mais de toute façon il y a un irréductible désir, enfin et encore. Là, vraiment, je ne sais pas si on aura le temps, on entre dans un gros chapitre. Parce que ça, ce n'est pas vrai, c'est un phénomène relativement moderne. Si vous prenez les sociétés archaïques ou les sociétés traditionnelles, il n'y a pas un irréductible désir. On ne parle pas là du désir du point de vue psychanalytique, on parle du désir tel qu'il est transformé par la socialisation des gens. Or, ces sociétés sont des sociétés de répétition. Bon. Alors, là, précisément, et surtout dans l'époque moderne, il y a une sorte de libération, dans tous les sens du terme, par rapport à des contraintes qui étaient les contraintes de la socialisation des individus, c'est-à-dire tu prendras une femme dans tel clan, dans telle famille, tu auras une femme dans ta vie, si tu en as deux ou deux hommes, ce sera en cachette, en transgression, etc. Tu auras un statut social, ce sera ça. Il y a une chose merveilleuse dans Proust, dans le monde de Combray, dans la famille de Proust, quelqu'un qui avait épousé, qui était de la très bonne bourgeoisie de province, enfin dans la famille qui décrit, quelqu'un qui avait épousé une duchesse, une princesse, avait déchu. Même s'il avait de l'argent, il devenait un gigolo, quelqu'un qui sortait de sa caste pour monter plus haut. Mais monter plus haut, c'était déchoir. Être bien, c'était continuer dans cette voie. Peut-être ramasser un peu plus d'argent, mais continuer dans cette voie. Bon, on est entré dans une époque d'illimitation dans tous les domaines, et c'est ça, nous qui avons le désir infini, vous comprenez. Or, cette libération est en un sens une grande conquête. Pas question de revenir dans une société de répétition. Mais il faut aussi apprendre, et ça c'est un des très grands thèmes, apprendre à s'auto-limiter individuellement et collectivement. Et la société capitaliste maintenant est une société qui, à mes yeux, court à l'abîme de tous les points de vue, parce qu'elle est une société qui ne sait pas s'auto-limiter. Et une société vraiment libre, une société autonome, comme je dis, devra savoir s'auto-limiter.
Interdire ?
C'est pas interdire au sens répressif, mais savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, ou qu'il faut même pas essayer de faire, ou qu'il faut pas désirer. Par exemple, par rapport à l'environnement. Quand je dis, par exemple, j'écris, que nous devrions, dans une société libre, nous vivons sur cette planète merveilleuse que nous sommes en train de détruire. Et quand je prononce cette phrase, je repense aux merveilles de cette planète. Je repense à la mer Égée, je repense aux montagnes enneigées, je repense à la vue du Pacifique depuis un coin d'Australie, je repense à, je sais pas, à Bali, aux Indes, à la campagne française qu'on est en train de démolir, de désertifier, etc. Bon, c'est une merveille. On est en train de la démolir. Qu'est-ce que nous devrions faire? Eh ben, je pense que nous devrions être les jardiniers de cette planète. Il faudrait la cultiver. La cultiver comme elle est pour elle-même. Et trouver notre vie, notre place relativement à cela. Et ça, c'est une énorme tâche. Et ça, ça pourrait absorber une énorme partie des loisirs des gens. Libérés par un travail stupide, productif, répétitif, etc. Or ça, évidemment, c'est très loin, non seulement du système actuel, mais de l'imagination des gens actuellement. Vous voyez ? L'imaginaire de l'époque, comme je dis, est très loin de cela. Et c'est cet imaginaire de l'expansion illimitée, de l'accumulation, de la camelote, etc., etc., d'une télé dans chaque chambre, deux micro-ordinateurs dans chaque chambre, et tout, dans cette pièce, chaque pièce de la maison, c'est ça qu'il faut détruire. Tout dépend de ça. Le système s'appuie parce qu'il y a cet imaginaire qui est là et qui fonctionne, effectivement.
Ce dont vous parlez là sans cesse depuis tout à l'heure, c'est la liberté.
Oui.
Derrière ça, il y a la liberté. Alors vous dites, ah oui, mais ça, c'est très lourd, c'est difficile, il faudrait... Et ça, c'est difficile, etc. Difficile, liberté.
Ah oui, la liberté, c'est très difficile, oui. Elle est très facile d'être...
Démocratie difficile.
Démocratie difficile, parce que liberté difficile, oui, absolument. Parce que c'est très facile de se laisser aller, l'homme est un animal paresseux, on leur a dit. Là encore, je reviens à mes ancêtres. Il y a une phrase merveilleuse de Thucydide, je ne sais plus dans quel discours.
Sacrés ancêtres, hein.
Sacrés ancêtres. Il faut choisir se reposer ou être libre. Je crois que c'est Périclès qui dit ça aux Athéniens. Si vous voulez être libre, il faut travailler. Vous ne pouvez pas vous reposer. Vous ne pouvez pas vous asseoir devant la télé. Vous n'êtes pas libre quand vous êtes devant la télé. Vous croyez être libre en zappant comme un imbécile. Vous n'êtes pas libre. C'est une fausse liberté. Donc, liberté difficile, parce que liberté, ça veut dire à la fois une activité. C'est pas seulement l'âne de Buridan qui choisit entre deux tas de foin. Bon, liberté, c'est l'activité. Et liberté, c'est une activité qui, en même temps, s'auto-limite. C'est-à-dire, c'est que elle peut tout faire, mais elle doit pas tout faire. C'est ça le grand motto, pour moi, de la démocratie et de l'individu libre. Je peux tout faire.
Oui. Liberté, c'est les limites. Philosopher, c'est établir les limites.
Non, la liberté, c'est l'activité, et l'activité qui sait se poser ses propres limites. Et philosopher, c'est la pensée, et c'est la pensée qui sait reconnaître qu'il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne connaîtrons jamais.
Voilà, c'était en 1996, cet entretien avec Cornelius Castoriadis, qui a disparu en 1997. Aller dans les œuvres de Castoriadis, une société à la dérive, entretien et débat qui ont été publiés au Point. démocratie, relativisme, entretien avec le MOS, etc., etc. Je vous préviens qu'il y a des partis qui sont parfois difficiles d'accès, hein, mais d'autres qui sont, vous pouvez accéder assez facilement, puis après vous montez, vous entrez dans l'œuvre et la pensée considérable de cet homme-là. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez la réécouter sur là-bas.org également, là-bas.org. C'est Éric Morin et Michel Béziquian qui étaient à la technique aujourd'hui. Coy Nguyen et Franck Adhéraire ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Le Bot. Et Marina attend vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et je vous rappelle, 17h, métro cité, demain. Hommage à Brassens, à l'hécatombe de Georges Brassens, 17h métro cité, vous voyez où c'est à Paris, entre le palais de justice et la préfecture de police. Tiens donc.
On fait quoi ?
Bah ça dépend.
C'est quoi le montant du jackpot loto de la fête des pères ?
7 millions d'euros.
7 millions d'euros ?
Ouais. On va vite, on va dire à papa de jouer alors.
Bah et nous ?
Montant à partager au rang 1, voire règlement.
Jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
France Inter et Château de Versailles Spectacle présente, dans le cadre du festival Venise Vivaldi Versailles, les fêtes vénitiennes sur le Grand Canal les 24 juin, 1er, 8 et 15 juillet. Sur la musique des 4 saisons de Vivaldi, Groupe F a composé une fête nautique et pyrotechnique sur le Grand Canal. Une évocation moderne des féeries nautiques très prisée par la cour, avec une parade de gondoles venues de toute l'Europe. Retrouvez les fêtes vénitiennes au château de Versailles dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
16h sur Inter, on se retrouve lundi à 15h. Je vous laisse pour les infos avec Julie Cacon. Salut.
Bonjour, une signature russe, une signature française, le Mistral est vendu. Paris et Moscou viennent de signer le contrat de vente de 2 navires de guerre. Un accord signé après de longs mois de tractations, un accord surtout très critiqué par les États-Unis ou par les voisins de la Russie. C'est la première fois qu'un pays de l'OTAN, la France, livre du matériel militaire dit sensible à Moscou. Les négociations ont surtout porté sur le prix de vente, dont on ne sait rien pour l'instant, et sur les transferts de technologies exigés par les Russes. Ces 2 navires seront construits en France, puis 2 autres en Russie, selon ce qui avait été convenu fin mai à Deauville. D'autres cas suspects d'intoxication alimentaire sont surveillés de près par les autorités sanitaires. Outre les 7 enfants toujours hospitalisés à Lille, le ministère de la Santé dit avoir lancé des analyses pour au moins 2 autres personnes. Pour l'instant, donc, 7 enfants sont toujours hospitalisés à Lille après avoir mangé des steaks hachés surgelés. L'un d'entre eux a été placé en coma artificiel sous assistance respiratoire. Des échantillons de viande ont été envoyés à un laboratoire de Marcy-l'Étoile, près de Lyon. Les résultats seront connus lundi. On est quasiment sûr que la bactérie E. coli présente dans ces steaks n'est pas de la même souche que la bactérie allemande. L'armée syrienne a tiré ce vendredi sur des manifestants rassemblés dans plusieurs villes du pays, et notamment à Banias. La France demande à ce que les sanctions contre la Syrie soient élargies à des entreprises, à des banques, en plus des quelques personnalités du régime de Bachar al-Assad déjà visées par l'Union européenne. La Grèce doit être sauvée et sera sauvée. Le nouveau ministre des Finances grec, visiblement très confiant dans ses capacités à sortir le pays de la crise de la dette, Evangelos Venizelos, est l'ancien ministre de la Défense. Il a succédé ce matin à Georges Papakonstantinou à la faveur du remaniement ministériel. Enfin, les habitants de Longvilliers, dont les Yvelines, ont entendu plusieurs coups de feu depuis hier. Un forcené est retranché dans son appartement avec un fusil, son fusil de chasse. Jusque-là, les négociations avec son fils, puis avec les gendarmes, n'ont rien donné. L'homme de 60 ans s'est enfermé à double tour après une dispute violente avec sa compagne.
Les liaisons heureuses, Colombe Schneck.
Ce samedi sur France Inter, en partenariat avec le Monde des Livres, le grand Bernard Pivot pour Les Mots de ma vie chez Albin Michel.
On parle aussi bien d'amour que de gastronomie, que de football, que de texto. J'aime beaucoup l'article texto.
Et Nicolas Dessiendorf, l'auteur de Je pars à l'entracte, dans la collection Les Affranchis chez Nil.
On se dit, ça va dégouliner de sucre, de miel, de tendresse, etc. Eh bien, pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Les liaisons heureuses. Demain, à partir de 15h.
France Inter.
La différence.
À 16h03 sur France Inter, eh bien c'est l'heure de retrouver Frédéric Lodéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes à Lille pour un grand événement, un de plus, il faut dire, à Lille. C'est Lille Piano Festival organisé par Jean-Claude Casadesu. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour cher Frédéric.
Levé très tôt parce que vous répétez, vous organisez
mais
tout
ça. Mais pas si tôt que vous qui avez eu la gentillesse de
vous mais ouais, mais enfin vous vous dirigez ce soir en plus, hein, vous avez organisé tout ça.
Chacun son truc.
François-Frédéric Guy, bonjour aussi.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes venu nous parler de musique et puis on a entendu vos disques aussi à France Inter déjà. Et puis Francesco Piemontesi, bonjour.
Bonjour.
Qu'on va entendre plutôt en deuxième partie d'émission. Alors, racontez-nous ça, cette grande folie du piano, Jean-Claude Casadesu. Ça vous a pris quand, ça ?
Bah écoutez, c'est la 8e édition qui est née lors des célébrations de Lille, capitale européenne de la culture, 2004. Donc, le festival est né à ce moment-là. Il était issu des rencontres que j'avais déjà organisées avant, des rencontres Robert Casadesu. Voilà. Alors, on a monté un festival qui a reçu déjà plus de 100 000 personnes. Et en 3 jours, je crois que c'est le festival, je dirais, le plus riche au sud de l'Europe du Nord et au nord de la France. Vous voyez, il y a la Roque d'Anthéron, qui est fantastique. Oui. Mais ce festival réunit en 3 jours une trentaine de pianistes, 45-50 œuvres. Il y a des œuvres spécialement conçues pour les enfants, des histoires qui sont racontées par François Castan.
Le petit tailleur d'Arsène.
Le petit tailleur. Et puis, vous avez des transcriptions de ce formidable révolutionnaire qui était Liszt. Parce que Liszt, c'est, voilà, on fête son bicentenaire.
C'est le grand sujet. Hein,
et c'est le grand sujet, et le festival lui est consacré en grande partie.
Alors, François-Frédéric Guy, vous êtes venu pour Beethoven à Radio France, à Paris. Et puis là, Franz Liszt, d'ailleurs, je découvre votre disque à cette occasion. On vous connaît comme le promoteur de ce projet avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Et puis vous jouez les 32 sonates de Beethoven en permanence, enfin voilà. Et pour vous, quelle est la différence pianistique purement et simplement ? J'ai envie de dire, parce que je vais lancer une petite piste, tiens, comme ça. Pour moi, Beethoven est un homme qui conçoit la musique de l'intérieur, une forme d'intellectuel. Et Liszt était un pianiste prolifique, on va dire, qui avait des doigts qui grouillaient de partout et en permanence.
Il avait les doigts qui grouillaient surtout jusqu'en 1847. Oui. Et puis après, il s'est retiré de la vie publique en tant que virtuose pour se consacrer à la musique, à la spiritualité, aux autres. Pour se consacrer à la composition, et je pense que c'est ce Liszt aussi, et surtout, dont on doit se souvenir,
oui.
Pas les 10% de Liszt.
Virtuose.
Oui, et la virtuosité est là, partout, permanente, mais Liszt, c'est le grand transcripteur.
Oui.
Son œuvre n'est qu'une immense transcription. La sonate de Liszt, par exemple, on pourrait en faire une orchestration. La virtuosité de Liszt, à mon sens, ne doit jamais avoir quelque chose d'extérieur et être une fin en soi, mais elle donne toujours l'impression d'être
d'une vie très riche.
Oui, transcripteur et inventeur, moi je dirais, si je peux me permettre, parce qu'il a bénéficié, au fond, de l'expérience de ses grands prédécesseurs, mais il a transmis à toute une génération. Dans sa musique, on retrouve Tchaïkovski, Bartok. Il est influencé aussi par Beethoven et Wagner. Il naît 2 ans avant sa naissance et on ressent des phrasés très wagnériens.
Tous les deux, Wagner et Liszt, sont vraiment intimement
sont
liés,
très
même dans la vie, on pourrait dire, puisque la fille de Liszt va épouser Richard Wagner à son os. Et il y a une imbrication vraiment musicale. Ils se sont entraînés. Liszt a créé Lohengrin. Soutenu Wagner,
absolument.
Et Wagner a énormément entendu Liszt jouer, et nombre des mélodies, on faisait référence en travaillant le deuxième concerto tout à l'heure avec Jean-Claude, nombre de mélodies peuvent se retrouver dans le premier acte de La Valkyrie ou dans d'autres pièces. C'est assez impressionnant.
Un grand mélange musical et spirituel.
C'est un formidable Européen aussi. Hein. Hongrois, Allemand, Français, il adorait la France.
Il a vécu chez nous.
Il a eu plusieurs vies, je veux dire. Grand séducteur, métaphysicien.
Tout.
C'est un personnage
universel.
Tout à fait.
On va l'entendre tout de suite dans un extrait.
Dont on ne mesure pas toutes les...
Grâce à vous. Vous avez campé déjà, à vous deux, le personnage de manière très substantielle. Harmonie poétique et religieuse que vous jouerez dimanche à 14h30 au Conservatoire Régional.
Absolument.
J'arrive toujours pas à dire un rayonnement régional, ça me gratte un peu la gorge. Donc, Cantique d'amour par François-Frédéric Guy.